Il reste. Le Premier ministre espagnol renonce à démissionner. Il avait évoqué cette possibilité la semaine dernière après l'ouverture d'une enquête pour corruption contre son épouse. Mais Pedro Sanchez a décidé de continuer son mandat et nous allons en parler avec Hubert Pérez, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine et professeur émérite à l'Université de Montpellier 1. Bonjour.
Bonjour.
Cette décision, cette annonce de Pedro Sanchez ce matin, c'est un énorme soulagement pour les socialistes.
Oui, ils avaient manifesté ces derniers jours, les cadres du parti, lors d'un comité fédéral, mais aussi beaucoup de militants qui s'étaient rassemblés dans la rue pour soutenir Pedro Sanchez. Donc il y avait une véritable inquiétude qu'il s'en aille, tant sa figure est devenue importante, parce qu'il faut rappeler qu'il est président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent d'un Premier ministre en fonction depuis 2018, avec plusieurs gouvernements successifs. Donc c'est devenu un personnage très très important pour toute la gauche espagnole.
El País écrit même là ce matin, ce midi sur son site, que Pedro Sanchez est devenu incontournable et indéboulonnable. Il n'y a aucune alternative à gauche ?
Alors indéboulonnable, ça on peut le dire de personne, hein. Tout le monde arrive à déboulonner, Pedro Sanchez lui-même avait déboulonné des gens qui étaient en poste avant lui. Mais oui, disons qu'il occupe une telle place depuis 2018 qu'il n'y a pas vraiment de figure au sein du Parti Socialiste qui se soit imposée comme un successeur évident. Alors les socialistes en auraient trouvé, hein, mais évidemment ça aurait été très difficile. Et Pedro Sanchez, qui concentre sur lui énormément de critiques personnelles et même de critiques très très haineuses de la part de l'extrême droite et même de la droite espagnole, représente aussi quelque chose de très important aux yeux de tout l'électorat socialiste.
Alors justement sur ce point, la presse espagnole revient beaucoup depuis quelques jours sur l'origine de la plainte contre son épouse qui vient d'un syndicat d'extrême droite. Pedro Sanchez est-il effectivement l'objet d'un harcèlement de la part d'opposants politiques ?
Oui, alors il faut même pas parler de syndicat d'extrême droite, hein. Ce petit groupe s'auto-intitule syndicat, mais il n'a pas vraiment de troupes. Il a été fondé par un ancien franquiste qui n'a de cesse depuis des années d'harceler tout ce qu'il peut à gauche parmi les personnalités politiques ou sociales éminentes. Alors en réalité, effectivement, depuis qu'il est au pouvoir, Pedro Sanchez n'a cessé d'attirer les foudres, les rumeurs, les calomnies, on peut me dire les bobards, d'un très grand nombre de petits groupuscules. Et malheureusement, cette politique, elle a été assez largement soutenue par le principal parti d'opposition, par le Parti populaire, qui joue un peu cette carte depuis plusieurs années. D'ailleurs, toute la droite et l'extrême droite ont fait campagne lors des dernières élections législatives du 23 juin sur le thème de l'anti-sanchisme. Ça veut dire à quel point, donc tous contre Pedro Sanchez, ça veut dire à quel point le combat politique est aussi un combat personnel de la droite contre Pedro Sanchez.
Et d'ailleurs, la droite est toujours sur cette ligne, hein, puisque ce matin, elle parle de caprice de la part de Pedro Sanchez. Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer exactement comme avant ?
Oh oui, la tension n'a pas fini effectivement de régner parmi les principaux partis politiques, en partie parce que il y a cette question de l'amnistie qui avait soulevé énormément d'émotions et qui avait valu des critiques extrêmement virulentes, pas seulement de la droite d'ailleurs, mais d'une partie de la gauche contre Pedro Sanchez.
Pour les indépendantistes catalans.
Oui, de l'amnistie pour les indépendantistes catalans impliqués dans ce qu'on a appelé le processus indépendantiste. Alors ce n'est pas fini. La loi a été votée par le Congrès, doit passer maintenant devant le Sénat. Et puis d'une manière générale, il y a une sorte d'impatience très très grande de la part de la droite de se débarrasser de Pedro Sanchez, qui est considéré effectivement comme une personnalité difficile à déboulonner précisément. Et c'est en grande partie pour ça que les critiques se déchaînent contre lui personnellement.
Il est à la tête d'un gouvernement de coalition qui est très fragile aujourd'hui. Vous nous parliez de la Catalogne. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un effet sur les élections qui arrivent là dans moins de 2 semaines en Catalogne ?
Alors, on peut présumer du moins immédiatement, ça a eu comme effet de passer un petit peu au second plan, précisément, la campagne pour les élections catalanes. Les élections vont se dérouler dans très peu de jours, le 12 mai. Et disons que ce qui s'est passé va avoir tendance à renforcer le candidat socialiste en Catalogne, qui s'appelle Salvador Illa, qui était déjà en tête dans les sondages. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les indépendantistes. Mais le sort de ces élections va être très, très important pour Pedro Sanchez, parce qu'on ne sait pas quelle sera après les élections, en fonction du score qu'il obtiendra, l'attitude du parti de Carlos Puigdemont, Junts, qui est un allié quasiment obligatoire aujourd'hui, mais aussi un allié incommode et qui n'a pas juré fidélité absolue à Pedro Sanchez.
Et est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences sur la crédibilité de Pedro Sanchez vis-à-vis de ses partenaires européens, par exemple ?
Oh, je ne crois pas, parce que tout le monde est au courant. D'ailleurs, Pedro Sanchez y a fait vraiment allusion pendant son discours, qui a été très bref, mais très fort, à ce mouvement général d'une grande partie de la droite qui, dans le monde, utilise les réseaux sociaux, utilise les commentaires négatifs, utilise les attaques personnelles. Et donc, je crois que les partenaires européens ne se sont pas trompés. Ce qui est particulier à l'Espagne, c'est l'utilisation de la justice. Qui ne se retrouvent sans doute pas dans d'autres pays européens. Mais par contre, les campagnes d'intimidation, de provocation, de haine sur les réseaux sociaux en particulier, ça, tous les pays européens le connaissent plus ou moins.
Je vous remercie beaucoup, Hubert Pérez, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine et professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Montpellier 1.